Vous êtes sur RTL. En direct du studio 11, au 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, on défait le monde en RTL Soir, saison 2, épisode 13. Cyprien Signy.
Cyprien Signy et toute l'équipe qui vous accompagne jusqu'à 20h vous informe bien sûr le tout dans la bonne humeur. Il y a un gros programme, alors on traîne pas, nous sommes vendredi, le soir, il est 19h17, voici le sommaire.
Coronavirus, 5G et Bill Gates, quand le complot s'invite au dîner en écoutant On défait le monde, vous comprendrez pourquoi notre cerveau est tellement friand des théories les plus improbables. Black Friday, or not Black Friday, ce soir, un retour aux origines de cette journée qui agite l'actu comme jamais. Vous découvrirez qui a vraiment raté sa semaine avec le loser, le grand perdant de Céline Landreau. Et ce soir, Céline, des morts pas morts du tout.
Oui, des nécrologies publiées un peu trop vite sur le site de RFI.
Le billet retour de Brice du Génie qui prend des nouvelles d'une actualité qui a un peu disparu de la circulation ce soir. Retour au pays qui ne confine pas.
Oui, face à la deuxième vague de Covid-19, comment s'en sort la Suède sans masque et sans confinement?
D'ici 20h, vous aurez également vos trois infos pour briller au dîner. Une initiative étonnante qui fait du bien dans Marche ou Rêve. Et surtout, surtout un cadeau absolument incroyable. On vous envoie au sport d'hiver dans un chalet sur les hauteurs
un
de Megève. Oui, à deux pendant une semaine, le jeu. Ce sera donc vers 19h40, On défait le monde, saison 2, épisode 13.
Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Aventure, voilà.
On défait le monde dans RTL Soir.
Vous réagissez, vous commentez comme d'habitude le compte Twitter, la page Facebook de l'émission. Pourquoi Laurent Tessier est en dehors du studio? Est-ce qu'on peut expliquer ça, les coulisses?
Pour des raisons
aux
sanitaires.
Absolument.
Absolument.
Il ne faut pas être plus de 5 dans le studio.
Mais il peut quand même s'exprimer, il a un micro.
Ah oui, il a un micro.
Je suis là, les amis.
On a les gros moyens.
Mais oui.
De côté de la vitre, mais ça marche quand même.
À la télé, c'est formidable.
C'est formidable. On surfe comme tous les vendredis soirs, le surf de la semaine avec Cyprien.
Et évidemment, cette semaine, l'actu numéro 1.
Non, mais maintenant, on va parler anglais. Mais qu'est-ce que c'est? Click and collect, Bri Friday. Mais c'est ridicule.
Bri Friday. Oui, mesdames, messieurs. Car grâce au Bri Friday, la France.
Ça vous arrange, hein, parce que c'est pas facile à dire.
Bah, c'est vrai. La France a découvert son nouveau héros.
Et je me sens en pleine forme. Tous les matins, je me lève en me disant:
putain, je suis français, c'est la classe.
Ouais. C'est Bruno le héros. Bruno Le Maire, BLM pour les intimes. Le ministre de l'économie qui a fait plier le grand capital. Car, quant à propos du Black Friday, il a déclaré à l'Assemblée:
est-ce que vraiment, vendredi prochain, c'est la bonne date pour organiser un Black Friday? Ma réponse est non.
Oui, seul contre tous, il demande un report du Black Friday. Et là, personne n'a vu venir le Bruno.
Sauf qu'il s'agit d'une opération mondiale, en fait. Donc c'est pas Bruno Le Maire qui va réussir à appuyer sur le bouton, a priori, pour la stopper.
Eh bien, on va être France, là, s'avère impossible.
Eh oui, impossible. Même François Langlais, hein, ça l'a fait marrer, le report du Black Friday.
J'aurais bien une suggestion. Reporter Noël au calendrier grec. Et on en profiterait pour fêter Pâques avant les rameaux.
On se mord, hein, bien vu. Même GRB. Bah oui, Geoffroy Roux de Bézieux, le patron des patrons. Il le sentait pas, ce report. Il a même fait le cheval quand on en a parlé sur RTL. Si, si, je fais le cheval, écoutez.
Ouais, tout est imaginable, mais pas 8 jours avant.
Mais oui, impossible le report. Sauf que...
Impossible n'est pas française.
Mais oui, impossible n'est pas nono, surtout. Résultat, hier, même le patron d'Amazon France a lâché.
Aujourd'hui, nous avons décidé de reporter la date du Black Friday.
Alors ce soir, on peut le dire. We don't need another hero, we have Bruno. Bon, rien ne vous empêche de faire le Black Friday sur des sites étrangers, mais ça méritait quand même un hommage. Hommage aussi cette semaine à Aya Nakamura, qui commence quand même à s'installer durablement dans le paysage politique français. Oui, c'est assez étrange, mais bon, on se souvient de sa dédicace à peine voilée à Doudou Philippe dans son dernier titre.
Aime-moi Doudou, montre-le-moi Doudou.
Eh oui, Doudou par-ci, Doudou par-là. Eh bien, mercredi, en commission des lois à l'Assemblée, alors que ça discutait le plus sérieusement du monde des accents et du français.
Nous avons intérêt, nous aussi, à réinventer en permanence notre langue.
Ce député LREM n'y est pas allé par quatre chemins. Bon, alors, il n'est pas expert, mais quand même.
Quand je vois des jeunes comme Aya, comment s'appelle-t-elle, Nakamura... qui aujourd'hui, par sa chanson, est en train de réinventer un certain nombre d'expressions françaises, ça me paraît absolument remarquable.
Eh oui, remarquable.
Oh, Dja, Dja. Oh, Dja, Dja.
y'a pas moyen d'adieu.
En Kachana, baby, tu dettes ça. On a hâte d'entendre les futurs débats à l'Assemblée nationale. Enfin, un dernier hommage pour terminer. Un hommage à Jean-Claude Van Damme. Oui, alors je sais pas pourquoi cette semaine est ressortie sur les réseaux sociaux une interview de l'acteur belge datant de 2001 chez Thierry Ardisson. Oui, 2001. Il n'y avait pas de smartphone. Il n'y avait pas Netflix ou Salto. Il n'y avait même pas encore la DSL. Et Jean-Claude Van Damme, tout le monde s'était moqué de lui quand il avait expliqué ça. C'est fascinant, écoutez.
Je vais essayer de rentrer sur le monde médiatique, dans le net. On va annoncer un film dans le net. Alors, on va aller sur le White Band. Et là, le White Band, on pourra toucher 250 millions de viewers.
Ouais.
Pour un film de qualité avec $1.99. Comme ouais. Tous les gens au monde entier, ils appuient sur un bouton. Ils ne doivent pas attendre 40 heures pour le download. On va distribuer les films avec le téléphone.
Eh ouais, des films via Internet, simultanément dans le monde entier, pour pas cher, qu'on regardera sur le téléphone. Tout le monde s'était moqué de lui. Jean-Claude Van Damme est donc visionnaire. Bon, c'est pas certain que ce soit une bonne nouvelle pour l'avenir, mais vivement la semaine prochaine quand même.
Quel surf de la semaine.
Ah ouais, très en forme. Hein.
Franchement, je pense que c'est le meilleur de la saison 2, les amis.
19h22. RTL soir jusqu'à 20h. Bah,
il défait le monde.
Et c'est l'heure de la grosse info. On va détailler cette grosse info, bien sûr, Cyprien. Et elle concerne les complots ce soir.
Oui, on va tenter de dépassionner un peu le débat, parce qu'entre le coronavirus, les vaccins et la 5G, on en voit et on entend partout des théories qui, même si elles ne sont pas vérifiées, trouvent un écho certain. Donc pour prendre un peu de hauteur sur le sujet, Céline, eh ben vous allez tenter de comprendre pourquoi ces théories complotistes étaient aussi séduisantes.
Alors d'abord, le sujet n'est pas nouveau. Les théories du complot, elles ont toujours existé. Elles circulent plus facilement encore en temps de guerre ou de crise, et surfent particulièrement sur les sujets de santé. Comme l'explique Antoine Bristel, il est professeur agrégé de sciences sociales et expert à la Fondation Jean Jaurès.
La question sanitaire est une question qui va toucher chaque personne, et puis qui est liée à des traitements. Le vaccin, en l'occurrence, fait peur également parce qu'on s'injecte quelque chose. Donc, sur ces questions-là, les théories conspirationnistes vont avoir un impact potentiel extrêmement important. En l'occurrence, la thèse conspirationniste à laquelle adhèrent le plus de Français, c'est le gouvernement serait de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher la réalité sur la nocivité des vaccins. Il y a entre un tiers et 40% de la population, selon les vagues d'enquête, qui adhèrent à cette théorie.
Et puis, il y a bien sûr les réseaux sociaux qui leur permettent de circuler, de se développer plus vite, mais aussi d'être archivés, toujours accessibles sur la toile et donc de ne jamais s'éteindre complètement.
Et qu'est-ce qui fait qu'on adhère comme ça à ces théories alors ?
Alors là, les explications sont diverses. Il y a d'abord des biais cognitifs que nous avons tous, des biais qui ont souvent sauvé l'homme d'ailleurs, et qu'explique Pascal Wagner-Egger. Il est psychologue social à l'université de Fribourg en Suisse.
La croyance est influencée par une espèce de pensée intuitive que nous avons toutes et tous pour des raisons évolutives, c'est-à-dire que en tant que chasseur-cueilleur, on était obligé de prendre des décisions très rapides sans analyser la situation, et surtout en cas de danger. Par exemple, le biais d'intentionnalité, ou quand vous entendez un bruit derrière vous dans la forêt, c'est très utile de penser immédiatement que c'est un prédateur qui vous menace, même si ce bruit, il y a beaucoup plus de chances qu'il soit dû à du vent ou à d'autres causes moins graves. Le fait de percevoir très rapidement des intentions néfastes autour de vous et d'en avoir peur, c'est un mécanisme qui nous a sauvé la vie pendant des millions d'années. Le biais d'intentionnalité, c'est au lieu de penser que la pandémie s'est transmise de l'animal à l'homme, on va penser qu'il y a une intention derrière. C'est-à-dire que c'est un laboratoire qui a décidé de répandre le virus.
Et ce biais d'intentionnalité, comme il dit, n'est pas le seul à entrer en ligne de compte.
Il y a aussi un autre biais cognitif qu'on appelle le biais de conjonction. Quand deux événements arrivent en même temps, on va facilement percevoir que ces deux choses sont liées, comme justement le bruit qu'on entend dans notre dos et la présence d'un prédateur, on va tout de suite faire ce lien alors qu'il est sans doute pas vrai. Et par exemple, la 5G s'est développée en Chine et le virus vient de Chine, donc on va faire un lien entre les deux. Donc tout ça, c'est vraiment une forme de pensée magique que nous avons toutes et tous, mais que notre pensée plus analytique, plus scientifique qu'on apprend à l'école devrait améliorer en fait.
Et ça, sans compter l'intérêt narratif de ces théories. Des histoires souvent plus séduisantes que la réalité, dans lesquelles vous pouvez être le héros, celui qui a découvert la vérité vraie, celui qui sait, celui qui n'est pas dupe. Et puis, il y a aussi des données sociales. On sait que ces théories séduisent davantage les jeunes, les populations moins éduquées, moins intégrées socialement, en marge du système, donc parfois. Et comme les théories conspirationnistes visent les puissants, elles alimentent aussi un certain sentiment de revanche.
Et alors, comment lutter contre cela ?
Bah, y a plusieurs leviers sur lesquels jouer. Ça passe évidemment par l'éducation, par une surveillance des réseaux sociaux, même si là, le risque, c'est de donner une impression de censure. Donc, c'est pas toujours très efficace, par une meilleure intégration sociale. Mais ce qui est indispensable pour Antoine Bristel, c'est aussi de retrouver une plus grande confiance dans nos institutions.
Au fur et à mesure que les années passent, la confiance dans nos institutions baisse. Et c'est véritablement le problème fondamental qu'il faut gérer. À partir du moment où les institutions qui produisent des discours officiels sont complètement décrédibilisées, eh bien, en retour, les personnes vont adhérer à des théories qui sont complètement opposées, bien que complètement fausses.
Et ça, évidemment, c'est du travail à très long terme.
Passionnante enquête sur les complots, signée Céline Landreau dans On défait le monde, il est 19h27.
À suivre dans On défait le monde.
L'info pour briller de Marie Mollet, et puis vous saurez tout sur les origines du Black Friday. A tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller, même confiné.
Il y en a trois, vous le savez, dans l'émission dans On défait le monde tous les vendredis entre 19h15 et 20h. Trois infos pour briller au dîner. Alors les amis, voici la première avec Marie Mollet. Marie, vous cassez un mythe, vous.
Eh oui, je casse un mythe car on pensait avoir tout inventé ici avec les infos pour briller. On croyait être les seuls à vous donner chaque semaine de belles histoires pour se pavaner en public.
J'ai peur.
Grave erreur, puisque quelqu'un d'autre a eu l'idée bien avant nous. Bravo. Et c'est le ministère des Armées.
Oh,
oui, tout un dossier, 7 pages web, truffé d'anecdotes militaires pour, je cite, « briller le matin devant vos collègues à la machine à café hein, ». C'est ce qui est écrit noir sur blanc sur le site. Alors vous y apprendrez pêle-mêle qu'un bunker se cache encore sous le champ de Mars, que la guerre de 100 ans a duré 116 ans, que le miel a servi d'arme de guerre dans la Grèce antique, que le mot lapin est interdit sur un navire, que la mine antipersonnelle avait un ancêtre, le célèbre Triboulous, que les ballons dirigeables étaient surnommés des saucisses pendant la Grande Guerre. Bref, une farandole d'anecdotes croustillantes à souhait. Le ministère des Armées aussi se préoccupe de vos dîners en ville. Alors merci qui ? Merci Florence Parly.
Je pense que le ministère des Armées.
Elle est joueuse, Marie, parce qu'elle aurait pu s'en servir pendant toute l'année. Elle avait trouvé une chance inépuisable. Elle dégaine tout de suite.
Ouais, alors, je ne sais pas si elle reviendra la semaine prochaine en même temps. Je plombe, là, quand même, je ne veux pas dire, mais bon.
C'est la première de ce soir, signée Marie Mollet, 19h31.
Allume la lumière.
Allume la lumière quand un expert vient nous éclairer sur l'actualité.
Et ce soir, on s'attaque incontestablement au mot de la semaine, le Black Friday. On a dû tous le prononcer au moins une fois cette semaine. Je vous ai écouté tout à l'heure, Stéphane te vient d'inviter là-dessus aussi. Alors grosso modo, tout le monde sait désormais que c'est une journée de promo géante qui nous vient des États-Unis. Le gouvernement a donc réussi à faire décaler d'une semaine le Black Friday en France.
Oui, normalement c'est le dernier vendredi de novembre, mais cette année ce sera donc le premier vendredi de décembre, le 4 décembre.
Mais ce soir, on a voulu en savoir plus sur les origines de ce Black Friday. Bonsoir Yves Puget.
Oui, bonsoir.
Vous êtes le patron de la rédaction de LSA, un site français de référence, on peut le dire, hein, sur toutes les questions de consommation notamment. On va commencer par ce nom déjà, Black Friday, vendredi noir. Moi, ça me fait penser tout de suite à Wall Street, le jeudi noir de la crise de 29. C'est bizarre pour une journée de promo, non ?
Oui, bah, c'est très difficile de savoir quelle est l'origine exacte, mais on n'est pas loin de 1929 pour la première version, vu qu'on est en 1930. Et ce serait juste la période où autrefois on écrivait dans les livres de compte lorsqu'on était en négatif, en rouge, et lorsque les magasins devenaient positifs, gagnaient de l'argent, on passait en noir. Et les magasins finissaient par gagner de l'argent vers la fin novembre. Donc Black Friday, parce qu'on commençait à écrire dans les livres de compte en noir. Donc ça, on est dans les années 30.
Et c'est parce qu'ils gagnaient de l'argent qu'ils ont commencé à faire des promos, du coup.
Exactement. Et la deuxième explication date des années 50. Les Américains, Thanksgiving, ils déjeunent bien, il y a la dinde, et le lendemain, ils font leur sport favori, ils vont faire des courses. Et ce qui générait beaucoup d'embouteillages. Donc des embouteillages noirs, monstre, Black Friday. Donc voilà les deux explications historiques. Honnêtement, personne ne sait quelle est la bonne.
Est-ce qu'il y a une entreprise ou une ville dans laquelle il y a peut-être une origine de ce Black Friday ?
Non, il n'y a pas de ville. Alors d'abord, il y a une erreur pour tout le monde. Tout le monde pense que c'est lié à Amazon et à l'e-commerce. Ben non, pas du tout, parce que dans les années 50 ou 30, il n'y avait pas d'Amazon et encore moins d'e-commerce. Donc c'est tout simplement les grands magasins. Donc c'est d'abord une opération de magasin et ça a été kidnappé par l'e-commerce.
Moi, j'avais juste une question sur l'arrivée du Black Friday en France. Est-ce qu'on a une idée de comment, qui, pourquoi et pourquoi aussi tard ?
Alors, j'ai regardé, nous à LSA, LSA c'est un titre qui date de 1958, alors j'ai pas des archives internet jusqu'à 1958, mais si je mets Black Friday sur notre moteur de recherche, les premiers papiers datent de 2011. Et on commençait à expliquer que ça venait d'arriver. Donc je pense qu'en France, le Black Friday doit dater à peu près, on va dire massivement, pas anecdotiquement, du début 2010. Et c'est venu par Amazon.
Et donc c'est Internet.
Vous disiez le Black Friday en France, le début c'est 2010-2011. Est-ce que depuis chaque année, on a constaté que c'était en croissance, qu'il y avait de plus en plus d'achats, ou est-ce qu'on constate un ralentissement sur les deux, trois dernières éditions par exemple ?
Non, ça progresse toujours. Le problème qu'on a, c'est d'avoir de vrais chiffres. Il n'y a pas un chiffre qui va vous dire le Black Friday, ça représente tant de milliards d'euros. Alors, chacun va vouloir valoriser le Black Friday, va montrer ses chiffres, va dire je suis à plus 20, plus 30, mais avec des choses non comparables, et on est dans de la communication.
Et donc, c'est vrai qu'ils augmentent les prix juste avant et après ils les baissent. C'est connu comme tactique, ça.
Je serais dans l'incapacité de vous dire que c'est totalement faux, totalement vrai. Je pense hélas qu'il y en a qui le font. Mais fort heureusement, on a Bercy qui surveille. Et de temps en temps, il y a des amendes. C'est une bonne chose, l'État contrôle.
Et on sait aussi que le Black Friday est aussi assez décrié par des militants écologistes ou altermondialistes, comme le symbole d'une société de surconsommation. De quand ça date cette controverse-là et d'où ça vient et de quoi est-ce le symbole ?
C'est monté d'il y a 3-4 ans, c'est le symbole de ceux qui prônent la déconsommation. Moi j'ai un souvenir de personnes qui allaient casser un magasin vendant des produits high-tech d'une marque américaine et cette personne rouspétait contre la surconsommation de cette marque américaine, mais son téléphone était de cette même marque américaine. Donc il y a beaucoup de contradictions chez le consommateur. Oui, ça pousse à la consommation, mais on peut avoir une autre interprétation. Il y a aussi des Français qui ont des problèmes de pouvoir d'achat. Ça répond aussi à des demandes. Vous savez, il y a un vieux principe du commerce, un vieil adage. C'est faites des prix bas, les pauvres en ont besoin et les riches adorent ça.
Et pour info, Black Friday au Québec, ils disent vendredi fou. J'ai vu ça tout à l'heure en préparant l'émission.
Ils n'ont peut-être pas tort.
Voilà. Merci beaucoup, merci en tout Cyprien, cas, Yves Puget. Je rappelle que vous êtes patron de la rédaction de LSA, site spécialisé dans la conso. Bonne soirée.
Bonne soirée, merci.
Genre Cyprien Signé prépare l'émission.
Ouais, oui. Le vendredi foufou.
Ça, c'est l'info du soir. Restez là, dans un instant, la deuxième info pour briller. Il est 19h36.
RTL Soir, on défait le monde.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller, même confiné.
C'est la deuxième ce soir. Tout à l'heure, c'était Marie avec le ministère des Armées. On a appris plein de choses. Deuxième de ce soir avec Laurent.
On apprendra aussi plein de choses.
Moi, je pense.
On va voir. Alors, on parle beaucoup d'Amazon ces derniers jours, mais peu de consommateurs savent pourquoi le géant américain porte ce nom. Alors, au départ, en 1994, son fondateur, Jeff Bezos, crée un site de vente en ligne de livres. L'entrepreneur cherche alors un petit nom pour sa start-up. Il pense d'abord à Abracadabra. Le mot retransmet bien l'effet magique de la livraison d'un livre à domicile après une commande, en quelques clics. Il le raccourcit en cadabra.
C'est encore plus grotesque.
Voilà.
Dabra, bra, d'accord.
Sauf que lorsqu'il appelle son avocat pour déposer le nom officiellement, le juriste comprend cadavre. Bezos change d'avis, ce n'est pas le bon plan, ça fait mauvais genre. Il prend alors un dictionnaire, il regarde tous les mots qui commencent par la lettre A pour être, vous savez, en haut des recherches par ordre alphabétique. Ah. Et là, magique, il tombe sur Amazon, le nom d'un fleuve en Amérique du Sud, c'est le plus long du monde, et Jeff Bezos voulait que son entreprise soit la plus grosse de la Terre.
Elle est pas mal.
À la seconde près,
elle est rentrée dans le timing.
Et petite info plus, Bezos est également favorable au nom Relentless. En français, ça veut dire sans répit, incessant, implacable. Et si vous rendez aujourd'hui sur relentless.com, vous tombez sur Amazon, c'est magique.
C'était en trop, Laurent Tessier.
Il y en a encore une, non ? Ou c'est bon ?
On dirait Cyprien.
19h39.
De la semaine.
C'est l'heure de désigner le grand perdant de la semaine.
Avec la précision d'un horloger suisse sous amphétamine, elle traque le moindre faux pas, le manque de chance et surtout, tout simplement, les gros ratages de la semaine. Et ce soir, Céline, on va jouer à mort ou pas mort.
Et à ce jeu, ce sont nos confrères de RFI qui ont perdu cette semaine, qui ont vécu le cauchemar des rédactions. Le problème informatique qui met en ligne des articles qui n'avaient pas vocation à être publiés, en tout cas pas tout de suite, puisqu'il s'agissait de nécrologie de personnes encore vivantes. En début de semaine, donc, RFI a enterré un peu vite la reine Elisabeth II, Lionel Jospin, Bernadette Chirac, Brigitte Bardot, Jean-Paul Belmondo, Lynn Renault, Pelé, l'ayatollah Ali Ramenei, ou encore l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade.
La boulette. Ah oui, j'ai fait la boulette.
Grosse boulette, oui. Alors vous allez me dire que c'est pas très charitable de se moquer comme ça de ses confrères. Mais si on se l'autorise, ce soir, c'est qu'à RFI, ils ont de l'humour. Le lendemain, leur journaliste Arnaud Pontus revenait sur cet incident embarrassant.
Ces personnalités étant toujours de ce monde, la direction de RFI, Radio Funérailles Internationale, n'a pu que leur présenter ses excuses.
Quand on vous dit qu'ils sont drôles. Et même certains faux décédés s'en sont amusés.
Alors merci aux nécrologisés qui ont donné de leurs nouvelles hier. Aline Renault qui dit avoir éclaté de rire, ou Abdoulaye Wade satisfait d'avoir pu prendre connaissance de sa nécrologie, de son vivant. Un salut amical aussi à tous les vexés, tous ceux qui se sont rendus compte qu'on n'avait pas préparé leur hommage funèbre. Messieurs, dames, interrogez-vous sur votre carrière, vos actes, il est encore temps de vous ressaisir.
Et soyons honnêtes, nos amis de RFI qui en jouent, eux, ne sont pas les premiers à faire ce genre d'erreur. Il y a quelques mois, Le Monde annonçait la mort de Bernard Tapie. Là encore, un bug informatique. Et comment oublier la résurrection de Martin Bouygues? C'était le 28 février 2015.
Nous venons de l'apprendre, cette triste nouvelle. Notre patron Martin Bouygues est décédé.
Martin Bouygues va bien.
Démenti de la direction de TF1. Tout va bien pour Martin Bouygues.
Martin Bouygues qui, aux dernières nouvelles, est ce soir toujours vivant. Et nous, à RTL, on espère évidemment qu'on ne sera pas les prochaines victimes de ce genre de bug. Ouais,
évidemment.
C'est terrible, hein.
Terrible, terrible. Le titre de loser de ce vendredi soir, décerné par Céline Landreau. On a un cadeau.
C'est Monsieur Cadeau.
Ce soir, c'est Noël avant l'heure. C'est un peu Black Friday en avance au service cadeau de RTL, puisque Monsieur Cadeau a décidé de mettre le paquet. Alors là, Monsieur Cadeau, Greg Caranoni.
C'est exceptionnel.
Vous nous en faites du rêve.
Non, c'est vraiment exceptionnel. C'est une semaine à la montagne pour deux personnes.
Wow.
Avec vacances bleues et Intersport.
Wow.
On vous emmène sur les hauteurs de Megève, dans les Alpes. Ce sera un séjour inoubliable. Oui, un séjour inoubliable. Non, mais je suis sérieux, c'est un séjour inoubliable.
Il a
dans
bossé,
le chalet
Monsieur
3
Cadeau.
Étoiles, qui s'appelle le Prarian. Et alors là, vous allez pouvoir faire du ski, des balades de détente, avec une vue imprenable sur le Mont Blanc. C'est un chalet traditionnel qui...
Un chalet.
Qui, excusez-moi. Qui jouit d'un calme absolu avec une vue sur le Mont Blanc. Et puis, Intersport Rent. Je le dis pour Cyprien avec son accent
formidable. Rent. C'est long.
Le numéro 1 de l'allocation de matériel de ski. Non, c'est pas long, c'est incroyable. Ça mérite ça. Ça mérite vraiment ça.
Il n'y a pas de question.
Mais attendez, elle arrive. Laissez-moi mon instant du show, s'il vous plaît. On vous offre aussi l'allocation du matériel de ski et tout ça. Si vous voulez plus d'informations, vous allez sur vacancesbleues.fr.
Bon, ça fait rêver. Merci, Monsieur Cadeau. La prochaine fois, on fera un peu plus court, mais c'était bien. La fameuse question dont défait le monde. Comment appelle-t-on la grande journée promotionnelle qui nous vient tout droit des États-Unis dont on n'arrête pas de vous parler? Est-ce que c'est A, le Crazy Monday? B, le Oulala Wednesday? Ou C, le Black Friday? Crazy Monday, Oulala Wednesday ou Black Friday? Vous avez la bonne réponse, 32-10. 3-2-1-0, on tire en sort parmi les bonnes réponses et on passera un coup de fil à l'heureux vainqueur qui partira au ski pendant une semaine.
C'est plusieurs plus difficiles, les questions maintenant, faut parler anglais.
Dans le vu le cadeau, je suis obligé.
C'est pour vous éliminer, Céline.
Ah, oui,
il prépare ça tout l'après-midi, qu'il répète en plus.
Je vous ai dit que c'était un cadeau exceptionnel, c'était dans les Alpes, tout ça.
Avec un chalet. 32-10, on appelle à partir de maintenant, bonne chance.
On défait le monde sur RTL.
C'est l'heure du billet-retour quand on fait le point sur une actualité dont on a beaucoup parlé et qu'on a un peu oublié.
Ouais, souvenez-vous, en mars et en avril dernier, pendant la première vague de coronavirus, la France confinait, regardait la Suède, les yeux écarquillés.
En Suède, là-bas, pas de confinement strict.
Un pays qui n'a jamais confiné sa population.
À Stockholm, on circule librement.
École, commerce, bureau, restaurant, métro. Presque tout reste ouvert.
Les terrasses remplies comme si de rien n'était.
Pas de confinement, pas de masque. Stratégie différente avec, au final, un taux de mortalité quasi similaire au nôtre. Et alors que la deuxième vague est en train de frapper toute l'Europe, mon cher Brice, grand reporter au service étranger, on le rappelle, ils font quoi en ce moment, les Suédois?
Alors, la deuxième vague, elle est arrivée un peu plus tard en Suède que dans le reste de l'Europe. Et donc, d'abord, mi-septembre, le pays a cru que cette stratégie était peut-être enfin la bonne. Donc, geste barrière, oui, depuis le début, mais pas de confinement. Le masque n'est ni obligatoire, ni même une recommandation. Bars et restaurants, toujours ouverts. Sauf que depuis deux semaines, les chiffres s'affolent. Le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Plus 30% en une semaine. Les hospitalisations et le nombre de morts sont également en hausse. Donc, le Premier ministre, Stefan Löfven, a annoncé cette semaine de nouvelles mesures à la télévision. La fermeture des bars et des restaurants à 22h30, pas de rassemblement à plus de 8 personnes sur la voie publique et la fermeture des EHPAD. Mais toujours pas de confinement, toujours pas de masque, toujours pas de fermeture pendant la journée. Les écoles, les universités restent ouvertes. L'esprit reste donc le même. Le Premier ministre en appelle à la responsabilité de chacun. Il demande aux Suédois de se déplacer le moins possible, de ne pas faire de fête chez eux, de ne pas aller dans les salles de sport. Mais ce ne sont là que des recommandations, il n'y a pas ou très peu d'interdictions.
Et alors quoi, Brice? On peut dire que la Suède s'en sort mieux que nous?
Alors là, il faut modérer cette comparaison et prendre un peu de recul. Si on reste sur des chiffres bruts, par exemple le taux de mortalité dont vous parliez, Cyprien, c'est-à-dire le nombre de morts pour 100 000 habitants, par exemple, il n'y a pas de grosse différence entre la France et la Suède.
Donc ça ne sert à rien de confiner?
Non, on ne peut pas dire ça, c'est un peu réducteur et un peu simple. Je vous explique.
En fait,
pour savoir si la stratégie suédoise est la bonne, il ne faut pas la comparer à celle de la France, mais plutôt à celle de ses voisins nord. nordiques, c'est-à-dire la Norvège, la Finlande et le Danemark. Pourquoi ? Parce que les modes de vie là-bas sont proches, le nombre d'habitants, les densités de population également, et puis culturellement, les citoyens de ces pays font confiance à leurs dirigeants, et notamment sur les normes sanitaires et sur les recommandations. Je vous donne deux exemples. Le Danemark et la Norvège, ils ont eu recours au confinement et à la fermeture des écoles. La Finlande, elle a privilégié le télétravail, le port du masque et le dépistage de masse, et plus de la moitié de la population finlandaise a téléchargé l'application Tous Anti-Covid. Donc ces pays ont pris des mesures plus restrictives qu'en Suède. Résultat, depuis le début de la pandémie, le taux de mortalité est 10 fois inférieur en Norvège et en Finlande et 5 fois inférieur au Danemark par rapport aux voisins suédois. C'est un échec pour la Suède, selon l'épidémiologiste de Stockholm, Stefan Hansson.
Beaucoup moins bon. Ça, c'est tout à fait clair, tout à fait net. Les Finlandais et les Norvégiens, ils ont des... C'est beaucoup plus efficace. Ils ont des équipes qui sont très efficaces. C'est une question d'organisation.
Enfin, une dernière chose, le gouvernement suédois, vous savez, avait dit adopter cette stratégie au début de la première vague pour ne pas plomber l'économie du pays, ne pas mettre le pays à l'arrêt. Eh bien, là aussi, c'est un échec, puisque la Norvège, la Finlande et le Danemark ont des économies certes en difficulté, comme partout ailleurs dans le monde, mais qui se portent mieux que celles du voisin suédois.
Les choses sont claires, le billet retour de ce soir signé Brice Dugénie dans On défait le monde à 19h47.
À suivre dans On défait le monde.
La dernière info pour briller de la soirée et une superbe initiative de jeunes qui se bougent dans Marche au rêve. On n'oublie pas le gagnant du jeu, évidemment. A tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller, même confiné.
Il y a eu Marie et Laurent ce soir pour les infos pour briller. La troisième, c'est avec Cyprien à 19h49.
Et on a appris aujourd'hui la mort à 56 ans de Régis Fassier. Et si ce nom ne vous dit rien, ben ça va vous parler. C'était l'homme qui se cachait sous Casimir. C'est en effet lui qui a pris la suite du créateur du personnage, Yves Brunier. Mais ce que l'on dit moins, c'est que Régis Fassier... C'était aussi Footix. Oui, c'était aussi lui qui se cachait sous le personnage de Footix. Vous vous souvenez de Footix?
Ben oui.
Oui, le coq bleu et rouge, mascotte de la Coupe du Monde 98, Footix, qui a été, alors c'est intéressant de le rappeler, l'un de ses pires souvenirs à Régis Fassier, et il en parlait avec humour justement, expliquant qu'il passait son temps à se faire siffler dans les stades. Et oui, Footix qui a très vite été pris en grippe par le public sans vraiment qu'on sache pourquoi, mais qui aujourd'hui est devenu un peu culte quand même. Ce soir, on a donc une pensée pour Régis Fassier et pour Footix, qui pour la petite histoire a failli être une grenouille, avant que lui soit préféré le coq.
Mais voilà, Footix a été très critiqué à l'époque,
oui,
je comprends. Mais
détesté. En fait,
les autres mascottes sont adorées. Enfin, il y a pas de.
Bah, je sais pas, mais Footix, il a quand même pris. Hein.
Oui,
il a mangé chaud, comme on dit chez moi.
19h50, c'était la troisième.
C'est un peu injuste.
Nous qui étions enfants avec Brice, on adorait.
Mais je sais pas, c'était injuste cette haine contre Footix.
Moi, j'ai toujours détesté Footix.
Mais parce que vous étiez trop vieux, Cyprien, déjà.
Mais je suis pas beaucoup plus
mais vous êtes vieux, trop vieux.
Oui. On y va.
Marche ou rêve.
Marche ou rêve, c'est votre moment quand on met en valeur vos projets, vos initiatives les plus originales.
Et ce soir, un projet solidaire et surtout très utile, Laurent.
Ouais, je vous emmène dans la région Centre-Val de Loire. Deux photographes professionnels, Clara et Margot, ont décidé de venir en aide aux commerçants avec ce projet, la photo contre la Covid. Ça a commencé dès le début du reconfinement. Et le principe est simple, elles mettent en valeur trois produits, des boutiques, commerces, artisans intéressés avec des photos professionnelles. C'est gratuit et on peut retrouver ensuite les clichés sur une page Facebook et un profil Instagram. Nous sommes en ligne avec Clara. Bonsoir Clara.
Bonsoir Stéphane, bonsoir Cyprien, bonsoir l'équipe.
Bonsoir.
Vous avez 22 ans, vous êtes également étudiante en master en communication. Comment vous est venue cette idée ?
C'est super simple. La nuit du 28 octobre, après les annonces de notre président, j'arrivais pas à dormir. Et comme nos studios sont fermés avec Margot, j'ai tout de suite pensé à elle. Et je l'ai contactée, je lui ai fait un audio. Je lui ai dit, écoute, faut qu'on fasse quelque chose. Faut que nous, on continue de faire des photos. Et faut qu'on aide tous les autres commerçants qui eux aussi ont dû fermer leur boutique.
Alors comment fonctionnent les entreprises ? Vous appellent et comment vous travaillez par la suite ?
C'est très simple, ils nous contactent directement soit sur la page Facebook, soit sur le compte Instagram, soit directement par mail, en nous expliquant ce qu'ils font, les produits qu'ils proposent. Donc c'est une solution pour toutes les personnes qui font soit du click and collect, soit qui ont un site en ligne, soit qui font directement de la vente par téléphone. Ensuite, on a des points de collecte, on en a trois actuellement, mercredi Tourblois, vendredi Beaugency et le samedi à Orléans. On récupère les articles, on les ramène dans les studios. Chacune, on fait notre petite mise en scène qui colle avec l'image de la marque. Et ensuite, on leur envoie une planche avec les photos. Ils les choisissent directement. Ils en ont trois gratuites. Et voilà.
C'est hyper sympa. Et alors, c'est gratuit, vous faites ça gratuitement ?
Eh bien oui, les trois premières photos sont gratuites. Après, s'ils en veulent plus, il n'y a pas de souci. Nous, on vend aussi nos photos. Mais les trois premières, en effet, elles sont gratuites.
Et alors, qui fait appel à vos services? C'est quoi comme type de produit essentiellement?
On a toutes les entreprises, hein. On a vraiment à la fois des créatrices de vêtements, des créatrices de bijoux, on a aussi de l'alimentaire, des produits de beauté, on a vraiment de toutes les tailles d'entreprises, de tous les types d'entreprises, vraiment très large choix.
Il y a deux graphistes, hein, qui vous ont rejoint aussi, Victoire et Émilie. Le projet solidaire est en train vraiment de s'étendre aussi dans toute la France?
Exactement, depuis la semaine dernière, on a du coup deux graphistes avec nous qui proposent, en fait, on cherchait une solution avec Margot pour toutes les entreprises qui font de la prestation de services et qui ont aussi dû fermer leurs locaux et qu'on ne peut pas prendre en photo. Donc du coup, les deux graphistes sont là pour tout ce qui va être création de visuels, logos, charte graphique et ainsi que les réseaux sociaux. Et en plus, depuis la semaine dernière, du coup, il y a nos amis Lorrain qui nous ont rejoints. Coucou Aurélien d'ailleurs, qui nous ont rejoints dans le projet, qui ont eux aussi leur page Instagram, page Facebook et adresse mail. Et depuis là, depuis ce soir, la région PACA qui est aussi avec nous. Voilà.
Et alors, l'idée, c'est quoi? C'est de pérenniser cette organisation pour après le déconfinement et pour une fois que tout sera ouvert, pour quand même continuer à bosser comme ça dans cette organisation?
Ah, ça, c'est secret. Non. Non, non, on aimerait bien monter quelque chose ensuite. Margot, quand je l'ai rencontrée il y a 2 ans, m'a parlé de son idée de créer un collectif avec des graphistes, des photographes, où on puisse tous travailler ensemble, partager nos compétences. Donc c'est peut-être aujourd'hui l'occasion. Alors on l'a saisi pour le moment. On espère que ça va pas durer trop longtemps. En tout cas, la photo contre le Covid. Sinon, c'est qu'on est toujours confinés, ouais. Et c'est pas bon signe. Mais sinon, on essaiera de faire quelque chose après, vu qu'en tout cas ça fonctionne bien et que tout le monde nous fait confiance.
Voilà, formidable projet. Ouais. Rendez-vous surtout sur Facebook et Instagram, La Photo Contre la Covid. Vous verrez tous les produits des commerçants et leurs coordonnées.
Super idée, bravo Clara.
Bravo.
À très vite, merci. On prendra des nouvelles
beaucoup.
Bien sûr de l'évolution de votre initiative, comme on le fera régulièrement.
Avec plaisir.
Dans Défait le Monde. À très vite. On a un gagnant.
Ah ben, un gagnant, Yannick de Châtonnet en Vendée. Bonsoir.
Ouais, salut tout le monde.
Bonsoir, pop, oh là là. Yannick, ouais. Qui va partir au ski à la montagne. Ça va Yannick, alors
ouais.
Là.
Vous êtes heureux là. Mais là, je suis trop content. Je sors du travail, je rentre dans ma voiture, j'allume la radio, je suis content de vous retrouver. J'entends le jeu, je dis allez, je vais la tenter quand même. Et on me rappelle, je suis heureux, je suis fou, je suis content.
Pardonnez-moi, mais Yannick, vous n'avez pas encore répondu à la question de Cyprien.
Oui, la question.
Ah oui, la question.
Ah,
oui. Bah, a priori, s'il a été sélectionné, c'est qu'il a. Alors, comment s'appelle cette journée promotionnelle? Est-ce que c'est le Black Friday, le Oulala Wednesday ou le Fantastic Monday?
Alors, attendez, laissez-moi réfléchir. Parce que j'ai décroché pendant que j'étais au téléphone. Non, allez, on va pas se tromper. C'est le Black Friday.
Oh, yeah. Est-ce que vous connaissez Megève?
Alors, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller, mais je sens que ça va être super, je sens que ça va être top. Je penserai fort à vous, ça c'est sûr.
Ah bah, on veut la carte postale.
La carte postale, hein. Carte postale obligatoire.
Carte postale obligatoire. Et puis, à mes collègues, je vais en profiter pour dire un grand bonjour à mes collègues de chez Rénoval, Véranda
Rénoval.
Mais pourquoi pas? Ils prennent de la pub, je crois, parfois.
Toujours chez nous,
oui,
la Rénovatitude.
Non mais au secours.
C'est la Vendée, vous pouvez pas comprendre, Brice.
On embrasse la Vendée aussi alors.
Exactement, à tous mes collègues qui sont sur la Vendée, sur la Loire-Atlantique, sur toute la France. Je fais un gros bisou à ma femme Emmanuelle qui est à la maison qui m'attend avec mes enfants.
Yannick, il s'installe. Hein.
Ouais, c'est clair.
Il est chez lui en fait. Bravo, on vous souhaite
bravo, Yannick.
Bravo,
et
merci d'avoir joué.
Merci à vous, c'est top, super.
À très bientôt.
Quelle énergie.
Super sélection.
Ça fait plaisir.
Les amis, on se retrouve le vendredi prochain.
À la semaine prochaine.
Vous savez ce que c'est vendredi prochain?
Et c'est le Black Friday, mais c'est reporté.
C'est Marie Mollet qui a gagné ce soir. L'info pour briller, elle était.
Bravo.
Super bien.
Bravo.
Oui, c'était de loin la meilleure.
Franchement, celle de Laurent était pas mal non plus.
Laurent, c'était bien.
Sur Amazon, c'était pas mal.
Je peux encore décider de quelque chose dans cette émission. Pas c'est possible. Merci à tout de suite pour l'actu. Et le foot dans la foulée. Bonne soirée. Ciao.
Ciao.
On défait le monde dans RTL Soir.